Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Verset 16 et 17 d'abord. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous ne sauriez croire combien ces deux versets, notamment entre autres parties de cet épître, combien ils ont donné lieu à des débats dans les milieux théologiques, et cela depuis le début de l'Église. Et quand on plonge un peu les regards dans cette théologie, on pourrait même dire l'histoire de la théologie, car il faut suivre l'évolution des avis, des pensées, eh bien, on finit par se prendre la tête et puis se dire « c'est plus du tout ce que ça veut dire ». La théologie réussit ce coup magnifique de tout embrouiller. Bien sûr, il y a des difficultés, c'est très vrai. Par exemple, on a beaucoup discuté sur cette expression qui figure au verset 17, « la justice de Dieu ». Révélé, parce qu'en lui, dans le croyant, est révélée la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? Est-ce que c'est l'attribut qui se nomme justice de Dieu, un attribut de Dieu? Ou est-ce que c'est un état particulier qui est formé, qui apparaît par la grâce de Dieu dans le cœur du croyant, etc., etc. Enfin, vous savez, il y a eu des dissertations à perte de vue sur toutes ces choses. Et je vous dis, on finit par ne plus y voir clair du tout. Alors, je crois que le meilleur guide, c'est le Saint-Esprit. Sans omettre toutefois, c'est pourquoi d'ailleurs je vous dis ces choses, sans omettre les précautions. Les précautions nécessaires. La Bible est une lettre qui est porteuse de l'Esprit, porteuse de la révélation de Dieu. C'est ainsi qu'elle est parole de Dieu, mais elle est parole écrite. Et de la parole écrite doit sortir la parole vivante. Par l'action de l'Esprit, bien sûr, pour chacun de ceux qui consultent le livre ou qui écoutent la parole. Mais elle est avant tout écrite et il faut, nous aurons l'occasion de parler de l'inspiration plénière des Écritures, nous verrons que cette inspiration ne peut être qualifiée que de verbale, c'est-à-dire du latin verbum, le mot, n'est-ce pas, au mot près, et alors par conséquent il faut s'assurer des mots, de leur sens, et bien sûr remonter le plus souvent possible au texte qui est inspiré, c'est-à-dire au texte ici, au texte grec. Alors, il est certain qu'il faut savoir le sens exactement et assez souvent aller le rechercher dans le grec. Et puis, cela fait, eh bien, alors il faut demander au Saint-Esprit de nous ouvrir notre esprit comme Christ l'a fait aux disciples d'Emmaüs, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Il y a toujours eu de la part des hommes incrédules un opprobre porté sur l'Évangile. C'est ce qui fait dire ici à Paul, je n'ai point honte de l'Évangile. Car l'Évangile est en contradiction avec la sagesse humaine. Bon, cela, Paul va nous le situer encore bien plus nettement dans le chapitre 1er de 1 Corinthiens. Il y a une contradiction. nous n'en sommes pas étonnés. Bien sûr qu'il y ait contradiction, mais il faut que nous le sachions et que nous ne nous laissions point nous-mêmes glisser vers ce mauvais procédé qui consiste à tenter de rationaliser l'Évangile, de l'adapter à l'entendement humain, l'entendement courant, l'entendement des incrédules. Alors, essayez de leur présenter un Évangile devenu logique, de la logique humaine. Alors c'est là le détruire, c'est là annoncer un faux Évangile. Par conséquent, il faut que nous acceptions que l'Évangile soit et reste une contradiction. Et si l'Évangile est contradiction, c'est parce que le Seigneur Jésus, lui et son œuvre, sont eux-mêmes contradictions. Cela a été énoncé par la prophétie de Siméon au temple. Il sera lui-même un signe qui provoquera la contradiction. Et nécessairement, le Seigneur et son œuvre, essentiellement, mettons, la croix, est une folie pour les hommes. Une folie devant la sagesse, devant l'entendement des hommes, c'est une folie. Que tout soit transformé, que la terre soit transformée car elle le sera, qu'il y ait une humanité nouvelle promise à l'éternité, tout ça parce qu'un jour, un homme a été cloué à la croix, rationnellement, c'est une folie. Bien sûr, n'est-ce pas ? Et n'ayons pas peur de cela. C'est une folie qui est sagesse de Dieu, mais qui, pour les hommes raisonneurs, est une folie. Si nous, nous nous faisons raisonneurs, nous buterons aussi, bien sûr, sur l'Évangile. L'Évangile est donc en contradiction avec la sagesse humaine, et il faut qu'il le reste. Donc, il est en contradiction avec la pensée la plus répandue. À chaque époque, on pourrait presque dire dans chaque région de la Terre, mais maintenant tout tend à s'unifier un peu, mais plutôt à chaque époque, à la nôtre notamment, il y a une mentalité qui se forme, et une manière de voir les choses, de penser, et puis voilà que l'Évangile, lui, bouscule tout ça. L'Évangile ne peut pas s'associer, il ne peut pas entrer dans cette mentalité-là. Il ne peut pas se placer, donc, sur le terrain rationnel, ce terrain du raisonnement, et l'Évangile n'entre pas dans les limites étroites qui enferme l'entendement humain. Car, mes amis, sachons bien ceci, en dépit de tout ce qui constitue l'acquis des connaissances humaines, et notamment en matière de sciences physiques, chimiques, et en matière, disons, de technologie, il y a là des prouesses, des prodiges aujourd'hui, c'est vrai, et cependant tout ça, qui est le produit du travail intelligent des hommes, tout cela est enfermé dans des limites étroites. Si Dieu nous prêtait pour un petit instant son regard, nous verrions toute cette connaissance humaine par rapport à toutes les réalités qui existent, nous verrions ça comme quelque chose d'insignifiant. D'insignifiant. Ah. Alors, ne nous laissons pas nous méduser par la science. La science dont on nous parle de tous les côtés, dont l'homme aujourd'hui se fait si fier. Non, ne nous laissons pas surtout séduire et sachons que l'Évangile est une puissance tout autre et de combien supérieure, on pourrait dire une puissance infinie, et une puissance, par conséquent, qui ne peut pas être comparée, mise à égalité avec la puissance que les hommes se sont donnée. Vous connaissez l'exposé de 1 Corinthiens, je le rappelle simplement, 1 Corinthiens 1, 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent saints, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas, mais pour ceux qui sont sauvés, ceux qui croient, par conséquent, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe, c'est-à-dire l'écrivain? Où est le disputeur de ce siècle, le philosophe, mettons? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il fallait connaître Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Les Grecs, c'était les philosophes, cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu, c'est-à-dire ce point de vue humain qui voit en somme l'acte de crucifixion essentiellement comme une faiblesse, eh bien, cette faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Or, il s'agit ici de honte. Je n'ai point honte de l'Évangile. La honte existe, et elle existe d'autant plus que l'homme lui-même est devenu pécheur et qu'il fait le mal, mais la honte ne devrait qu'être celle du péché. L'homme devrait être honteux de son péché. Je pense que le chrétien l'est. Mais les autres hommes, et de moins en moins à notre époque, on a honte du péché. Au contraire, on en est arrivé à notre époque à, en quelque sorte, afficher une certaine gloriole, une certaine satisfaction, à faire entrer, en somme, le mal dans un ordre nouveau et à s'en prévaloir. Voilà notre époque, commettre le mal sous différentes formes, c'est quelque chose dont l'homme se fait une gloire, aujourd'hui. En tout cas, il fut un temps peut-être où il s'en cachait, où il avait une certaine honte, maintenant il a travaillé à détruire cette honte. Alors, la honte est une réaction de l'homme naturel, lorsqu'il se voit en dehors de ce qui est admis par la multitude, en marge de la pensée commune ou des croyances qui sont admises dans son milieu. Voilà ce qu'est la honte, cette honte dont il est parlé ici. L'Évangile étant en dehors des choses admises, en marge de la pensée commune, alors un sentiment de honte peut venir au front de l'homme naturel devant l'Évangile. L'homme naturel, je dis bien l'homme naturel, sent venir sur lui une sorte de flétrissure du fait qu'il ne parle pas comme les autres et qu'il s'écarte du sentiment général. Mais pourquoi l'Évangile reste-t-il une folie pour le monde environnant? Est-ce seulement parce qu'il n'est pas rationnel? parce qu'il propose une crucifixion comme source de salut. Non, ce n'est pas seulement pour cela, il y a cela bien sûr, mais c'est surtout parce que l'Évangile juge l'homme. L'homme se sent jugé par l'Évangile et son orgueil est touché à vif. Il se sent atteint. L'Évangile l'atteint. Vous ferez tout ce que vous voudrez, vous n'empêcherez jamais ça. Et il ne faut pas l'empêcher. Il ne faut pas l'empêcher. J'ai eu un jour une assez longue discussion avec un évangéliste qui voulait se faire l'évangéliste du monde, admis, accepté, désiré dans le monde. Et alors il prenait toutes sortes de précautions pour présenter les choses et naturellement il arrivait à si bien réussir qu'il déformait entièrement l'Évangile. Et je lui montrais que ces formules aboutissaient tout simplement à un faux Évangile. L'Évangile n'avait plus de corps, n'avait plus de réalité, n'avait plus rien du tout. Ben, alors il pouvait évidemment plaire au monde. Alors lui pensait autrement, il disait, mais non, il faut que nous parlions un langage que le monde soit susceptible d'accepter. Il dit, mais comment vous le faites accepter au monde? Vous le faites accepter par la raison des hommes. Alors vous ne toucherez jamais leur cœur. Il faut bousculer leur cœur. Il faut les heurter. L'Évangile est un heurt. C'est une folie, il faut que ça reste une folie. Il faut qu'il y ait heurt. Il faut heurter le sentiment général. Alors, vous en aurez de la honte, peut-être devant pas mal de gens, si vous êtes dans une bonne société, vous arrivez là, vous êtes monsieur l'évangéliste, monsieur le pasteur un tel, enfin, puis vous allez vous mettre à parler de l'Évangile, vous allez jeter un froid, et puis on va se dire, c'est un arriéré ce pauvre homme, enfin. Eh bien, tant pis. Il faut pouvoir accepter ça. L'Évangile juge l'homme qui se sent atteint au fond de sa conscience et c'est son orgueil qui réagit. Ainsi, le prédicateur de l'Évangile, quand je dis le prédicateur, je ne veux pas exclure le témoin. Moi, j'accorde beaucoup de place au témoignage de Jésus par tous les membres de l'Église, et je ne vois pas que la prédication faite par celui qui a le ministère d'évangéliste. Ça, c'est un ministère d'évangéliste a beaucoup à s'employer, c'est certain, mais le témoignage des membres de l'Église aussi. Alors, que ce soit le prédicateur, que ce soit le témoin, par sa foi, il lui faudra vaincre la résistance de sa propre nature, afin de témoigner ouvertement devant les hommes d'une vérité qui heurte le plus grand nombre et qui suscite même la haine. Et cela, je l'ai entendu il y a bien des années, dans une excellente prophétie, et Dieu disait, tu susciteras même la haine. Et c'est vrai, l'opprobre de Christ va jusque-là. Il faut donc surmonter l'homme naturel, qui pourra, lui, être saisi d'un sentiment de honte en sentant autour de lui l'opposition de ses auditeurs et même leur ironie ou leur mépris. Alors il faut accepter d'être méprisé, d'être vu comme un petit esprit, comme un homme sans culture peut-être. Tant pis, ça n'a aucune importance. Nous ne voulons pas être parés de la culture des hommes, mais parés de la grâce de Dieu. Accepter le mépris, c'est accepter l'opprobre du Christ. Et la chose est tellement humaine, tellement générale, que le Seigneur Jésus lui-même en a parlé. Et le Seigneur a dit ceci, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. » Voyez-vous que le Seigneur, n'est-ce pas, a été au-devant de cet obstacle-là. C'est un obstacle sérieux qu'est cette honte de l'homme naturel qui ne veut pas venir tenir un langage qui peut le ridiculiser ou lui attirer le mépris. Alors, le Seigneur l'a dit, il faut absolument surmonter donc cette honte et pouvoir parler de Jésus-Christ. Alors, je vous pose la question, tout au moins, que ce soit le Saint-Esprit qui vous la pose au fond de votre cœur, est-ce que vous n'êtes pas quelquefois retenu par cette sorte de honte, pas toujours bien définie, si vous voulez, elle n'est pas toujours vue comme telle, mais cependant, est-ce qu'il n'y a pas une retenue à certains moments, de prononcer le nom de Christ devant certaines personnes, dans une certaine société? Est-ce qu'il n'y a pas cette peur d'être trouvé ridicule? Alors, chers amis, oui, il ne s'agit pas non plus, n'est-ce pas, de vouloir surmonter la honte quand on est, mettons, je suppose, dans une certaine société, et puis de dire, attendez un peu, vous, Jésus-Christ, j'ai parlé de Jésus-Christ. Il y a des gens comme ça, n'est-ce pas, qui se délivrent. Ils déchargent leur conscience. Ils font des bêtises. Ils font des bêtises. Bon, il y a eu des gens comme ça. On est connus. Mais ce n'est pas ça non plus, n'est-ce pas? Il faut bien sûr se laisser guider par le Saint-Esprit. Il faut parler en saisissant l'occasion que le Saint-Esprit va donner. Mais il faut bien sûr être prêt à confesser le nom de Jésus-Christ et confesser sa crucifixion et indiquer la voie du salut. Ça n'est pas si long que cela. Accepter ce mépris, c'est donc accepter l'opprobre. Ainsi, le risque qu'il y a d'être paralysé par la honte était vu du Seigneur. L'apôtre Paul lui-même y revient encore. Par exemple, dans 2 Timothée 1, 8, il dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. » Vous vous rendez compte, Timothée, devant toutes sortes d'assistance, était obligé de parler de Jésus-Christ, bien qu'il avait été crucifié, oui, et puis il parlait de son apôtre, dont il était le disciple, l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul, il était au fond d'un cachot, au fond d'une prison. Vraiment, ça n'avait rien de glorieux, tout ça, apparemment, n'est-ce pas? Apparemment. Alors, n'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ, ni de moi, son prisonnier. Pourtant, c'est Dieu qui pourrait avoir honte, et qui pourrait avoir honte de nous. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 11, il est écrit, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est-à-dire d'Adam, c'est pourquoi il n'a pas honte, Jésus n'a pas honte de les appeler frères. » Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Et dans le chapitre 11 de la même épître, au verset 16, « Mais maintenant, ils en désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Dieu aurait honte à honte des hommes lorsqu'ils se tiennent dans le péché et dans l'incrédulité. Mais si au contraire ils sont hommes de foi, même si tout l'opprobre de Christ les couvre sur la terre, Dieu n'a pas honte d'eux. Au contraire, il les voit déjà dans la gloire. En définitive, nous pouvons dire que la honte est quelque chose contre quoi le chrétien doit pouvoir et savoir réagir. Rien n'a une puissance, avons-nous dit, comparable à celle de l'Évangile. L'apôtre Paul nous dit que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cet Évangile, en effet, met en œuvre la puissance créatrice du Seigneur. Il faut savoir que l'Évangile n'est pas une doctrine bien mise au point et que nous avons à démontrer. Oh, chers amis, il y a des années que je m'élève contre cette affaire-là. C'est malheureusement dans certains milieux, même des milieux évangéliques, on fait de l'Évangile une doctrine bien mise au point, avec d'habiles formules, il faut le dire, n'est-ce pas? On a exprimé les données de l'Évangile de toute manière, on est arrivé à une mise au point des termes, c'est quelque chose qui est bien fait, certainement, puis alors, on cherche à démontrer, à prouver. Surtout dans les milieux où l'on ne croit pas au baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez? Enfin, nous ne voulons pas nous targuer d'avoir un privilège, mais nous avons tout simplement ceci, c'est que nous avons la foi dans la puissance du Saint-Esprit reçue par un baptême et qui doit être continué par la possession d'une plénitude de l'Esprit. Et c'est dans cette plénitude de l'Esprit qu'il est possible d'annoncer l'Évangile sans chercher à démontrer. Mais dans pas mal de milieux, je ne veux pas les nommer, mais dans pas mal de milieux évangéliques, on en est toujours là, n'est-ce pas ? Surtout qu'on fait pas mal de traités, et alors là-dessus, on veut faire comprendre, on veut démontrer. Alors que l'apôtre Paul nous dira lui-même que ce n'est pas une démonstration qu'il faut. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est pas une démonstration logique, c'est une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parce que, évidemment, on peut quelquefois amener à la foi chrétienne des gens qui finissent par céder à la logique qu'on veut leur présenter, et ils accèdent à cette sorte de doctrine philosophique, presque religieuse, ils viennent et ils finissent par entrer dans l'Église. Mais ils sont fragiles, ils ne sont pas véritablement, pour beaucoup, touchés profondément par la grâce. Tandis que c'est ce qu'il faut, bien sûr, si l'on annonce l'Évangile sans prendre de précautions pour le faire accepter par intelligence. Il faut se saisir de sa puissance percutante et le faire pénétrer dans le cœur. Il était dit au prophète autrefois, Dieu disait au prophète, parle au cœur de ce peuple, parle pas à sa tête, parle au cœur de ce peuple. L'Évangile arrache en effet des hommes à la mort, il les transforme, il contient la parole qui domine sur tous les éléments, et il peut changer le cours de l'histoire. Il l'a déjà fait, et il le fera encore. C'est lui qui mettra un terme, un dernier jour, à l'histoire de la terre. Il tient en réserve des actions prodigieuses, contenues dans l'espérance chrétienne, qui ne trompe pas, et ces actions prodigieuses sont, vous le savez, l'enlèvement de la toute dernière Église, la toute dernière, celle de la dernière génération, l'Église sera enlevée, la résurrection d'entre les morts, l'établissement du règne de Dieu sur la terre. Tout cela est contenu en germe dans l'Évangile, mais l'Évangile a la puissance de cela. La puissance de l'Évangile est celle du Christ qui est celle de Dieu. Et cette puissance s'exerce dans la ligne des desseins arrêtés par Dieu et révélés à l'avance. L'Évangile n'est donc pas une doctrine, une philosophie religieuse, mais la parole du Dieu vivant qui ne peut manquer de s'accomplir envers tout, tous et contre tout. L'Évangile est l'action constante de Dieu dans ce monde pour poursuivre l'accomplissement de ses desseins dont l'origine remonte à Abraham. Abraham, le père des croyants. Abraham à qui il a été promis une postérité, et une postérité qui va envahir les nations. C'est pas Israël, ça. C'est pas l'Israël peuple. C'est l'Israël de Dieu. Une postérité. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Toutes les familles de la terre. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et c'est là le point de départ des desseins de Dieu. Cette action puissante de Dieu a déjà porté de grands fruits à travers les siècles, et une humanité nouvelle est déjà rassemblée là-haut, dans la cité céleste. Vous y pensez à ça, qu'il y a beaucoup d'hommes, de femmes, et qui sont là-haut à l'état d'esprit, les esprits des justes parvenus à la perfection, mais ils sont là-haut en nombre extraordinaire, plus nombreux que le sable des mers. Ils sont là-haut et ils attendent le jour de la résurrection. Les esprits des justes seront ramenés par Dieu avec Jésus-Christ sur la terre pour que leur résurrection se fasse au niveau de la terre et qu'ils puissent monter avec ceux qui seront vivants et qui seront, eux, transformés, et qu'ils puissent tous monter ensemble. Mais ils attendent là-haut. Pensez qu'il y a une humanité nouvelle là-haut, et elle est nombreuse. Et tout cela tient à la puissance de l'Évangile. Ils attendent, comme dit l'Épître aux Hébreux, ils nous attendent, ils ne peuvent pas recevoir avant nous. L'Épître aux Hébreux dit ceci: tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. C'est-à-dire qu'ils sont bien, eux, les esprits des justes parvenus à la perfection, mais ils n'ont pas la totalité, étant donné que la résurrection n'a pas encore eu lieu pour eux, comme pour nous, bien sûr. Alors, ils attendent ce temps de la résurrection aura lieu pour tous au dernier jour, a dit le Seigneur. En définitive, la puissance dont l'Évangile est armé est cette puissance qui a agi en Jésus-Christ pour le faire naître de femme, pour le ressusciter d'entre les morts. C'est la puissance qui agit sur le monde encore maintenant, celle qui se manifeste en quiconque croit à l'Évangile, celle, enfin, qui à son heure préparée dans la pensée de Dieu pour juger la terre, pour y établir la création première, y rétablir la création première et pour fonder le royaume de paix et de justice sous le gouvernement de Christ. Tout cela est dans la puissance de l'Évangile. Alors, n'est-ce pas, si nous sommes hommes et femmes d'esprit, nous n'avons pas honte de l'Évangile qui est une puissance de Dieu. Et alors, le verset 17 nous dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. En l'homme de foi est révélé. Le terme est à signaler parce que là, on sent déjà poindre l'enseignement de Paul qui va nous dire, attention, la justice ne vient pas de l'homme, des œuvres de l'homme qui prétendrait avoir observé la loi de Dieu et tiré justice ou justification de sa bonne observation de la loi. Attention, ça ne vient pas de là, c'est une imputation. La justice est imputée, elle est révélée, elle est donnée, elle vient directement de Dieu. Donc, en l'homme de foi est révélée la justice de Dieu, c'est-à-dire qu'un état de justice est apporté en l'homme de foi. Et cet état de justice le met dans la situation du Christ lui-même. Situation du Christ, et voyons surtout le Christ dans sa nature humaine, le Christ lui-même, dans la même situation, si bien que il faut dire que Christ est notre justice. Christ est la justice de tout homme sauvé et croyant. Nous arrivons à une position, il nous est donné une position égale à la sienne, car si le péché est effacé, si la condamnation elle-même a été clouée à la croix et qu'elle n'existe plus, nous sommes dans la position du Christ. Et Christ s'est placé dans cette position pour que nous y venions nous-mêmes. Il nous met, en somme la foi, nous met dans la position du Christ lui-même vis-à-vis de son Père. Et c'est cela qu'on va, cette pensée-là qu'on va retrouver tout au long des enseignements du Seigneur Jésus, les enseignements de Paul aussi, mais je mets d'abord les enseignements du Seigneur Jésus, qui nous dira, comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Je vous aime de ce même amour. Il n'y a plus de différence. Le Père m'aime, eh bien, le Père vous aime comme il m'aime, moi aussi, n'est-ce pas? Voyez, il n'y a plus d'obstacle. Pas plus d'obstacle entre vous et le Père qu'il n'y en a entre moi et le Père. Même position, même état de justice. C'est-à-dire, état dans lequel il n'y a plus de rupture, plus d'obstacle entre Dieu et celui qui est justifié. De ce fait, une relation donc nouvelle s'établit en l'homme, entre l'homme et son Dieu, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et cette relation, on l'appelle la réconciliation. C'est un terme de l'apôtre Paul, certes, une réconciliation. Mais attention, quand Paul parle de réconciliation, il y met toujours les lendemains de la réconciliation. Et il y a une erreur fréquente qui consiste à voir la réconciliation comme un moment passager. Au moment de la conversion, on est réconcilié avec Dieu, c'est un jour de liesse, c'est magnifique, n'est-ce pas, on se sent très bien, et puis alors après, ben, on va de son côté, et puis on laisse un peu, n'est-ce pas, se distancer notre rapport. rapport avec Dieu, et ça, c'est une erreur. La réconciliation, et c'est le lendemain. Paul voit toujours une réconciliation qui reste cela. Et par conséquent, une réconciliation qui débouche sur une conciliation maintenue. C'est-à-dire sur une relation qui s'appelle, mettons, surtout, communion. Nous sommes dans la communion du Père et du Fils. Alors ça, il faut bien insister, mes amis, attention, veillons à la vie chrétienne. Quelle est pour base cette relation maintenue avec le Seigneur à travers la chair déchirée de Jésus. Par la foi et pour la foi. Nous avons cette double expression ici, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Or là, les théologiens ont dit tellement de choses, je vous disais, n'est-ce pas, que, en définitive, ils ont jeté une obscurité là-dessus. C'est effrayant. Alors, il faut absolument laisser de côté toute cette théologie et puis revenir humblement au texte pour lui demander ce que ça signifie, pourquoi Paul a dit par la foi. Par la foi, nous comprenons, par le moyen de la foi. Il le dit dans les Éphésiens, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. La foi est donc le moyen de l'appropriation de la grâce. La foi qui s'exerce appelle sa réponse qui est la grâce. Bon, ça nous comprenons par la foi, mais pour la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si la foi est d'abord le moyen d'appropriation, la justice de Dieu, qui est l'objet de cette appropriation, la justice de Dieu va être le soutien de la foi dans le cours de la vie chrétienne, pour la foi. Si la foi n'obtenait pas cette justice, elle péricliterait. Mais la foi qui a obtenu cette justification, cette justice de Dieu, la foi va être soutenue par cette justice de Dieu. Si bien que, en effet, dans le croyant est révélée la justice de Dieu, ou est apportée, si vous voulez, la justice de Dieu, par le fait de la foi, par le moyen de la foi, mais pour la conservation de la foi aussi. Parce que vous voyez que toujours chez Paul, et ça j'insisterai là-dessus, la continuation est toujours montrée. Qu'est-ce que serait une justification qui ne serait que l'acte d'un moment, l'avantage d'un moment, on est justifié, puis après on retourne au péché. C'est ça l'Évangile ? On retourne au péché, n'est-ce pas ? Non pas. Alors, par conséquent, c'est par la foi et pour la foi, la justice de Dieu sera le soutien de la vie nouvelle. Si bien que le juste restera en vie nouvelle en gardant la foi, mais la justice de Dieu lui permettra de garder la foi. La foi, donc, reste toujours, tout au long de la vie chrétienne, attention mes amis, la foi reste toujours l'origine de l'état de justice. Si à un moment, il y a, mettons, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne peux pas aller plus loin quand même, que nous sommes convertis, et si à ce moment-là, nous nous questionnons devant le Seigneur, et nous disons, est-ce que je suis, moi, dans l'état de justice? Est-ce que j'ai la justice qui, comme Paul le dit dans les Philippiens, vient de la foi, cette justice qui est imputée. Est-ce que je suis dans cette justice? Est-ce que j'ai bien cet état de justice en moi? Alors, s'il se questionne ainsi, eh bien, il devra en revenir à cette notion que son état de justice ne peut être maintenu que si sa foi elle-même le maintient. C'est sa foi qui le maintiendra. Si la foi s'étiole, si la foi se disperse, alors là, l'état de justice ne va pas subsister longtemps, ne va pas pouvoir subsister. C'est ce qui fait la vérité de cette
de cette proclamation, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste restera dans l'état de justice, et par conséquent dans l'état de vie, hein, si sa foi se maintient. Par conséquent, l'imputation d'une justice en raison de la foi demeure la réalité de tout temps. N'est pas seulement la réalité du moment de la conversion, c'est la réalité de toute la vie chrétienne. Maintenant, nous avons encore un petit peu de temps et nous allons aborder la suite, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. S'il y a révélation de la justice de Dieu, comme Paul vient de le dire dans le verset 17, il y a, verset 18 aussi, révélation de la colère de Dieu. Voyez-vous, cela fait pendant. En lui est révélée la justice de Dieu, dit le verset 17, et le verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Il y a aussi révélation de la colère de Dieu. Et cela ne nous étonne pas, puisque c'est en plein accord avec une déclaration du Seigneur Jésus dans Jean 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai quand il sera venu. Il convaincra le monde, en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Ainsi donc, vous voyez qu'ici, il y a même un office qui est rempli par le Saint-Esprit à l'adresse du monde, et pas par notre intermédiaire nécessairement. Il y a des gens qui se disent, ça, la conviction, ça vient toujours par quelqu'un de l'Église, une bouche de l'Église. Mais non, il y a une action directe du Saint-Esprit sur le monde, voyons. Il ne faut pas omettre cela. Et il y a l'action du Saint-Esprit qui permet, et nous l'avons dit à l'instant, la prédication et le témoignage, oui bien sûr, mais il y a une action sur le monde qui révèle le péché, le jugement, donc la colère de Dieu. La colère est révélée, elle aussi, nous dit l'apôtre Paul dans notre épître. Elle est révélée contre toute impiété et toute injustice. La colère de Dieu est, je m'en tiens souvent à cette expression, l'envers de l'amour, de son amour. Lorsque l'amour de Dieu est repoussé, il n'y a plus à trouver en Dieu que la colère, étant donné ce qu'est l'homme, étant donné que l'homme est un révolté. Un fils de rébellion. Alors, c'est l'envers de l'amour. L'amour, en somme, couvre la colère. L'amour fait taire la colère pour tout le temps nécessaire au salut de beaucoup. Et alors, si l'amour est repoussé, eh bien, c'est le jugement qui apparaît, le jugement étant l'action sainte de Dieu pour abolir le péché. Et le péché n'a jamais été chose supportée par Dieu, mais il n'est pas immédiatement soumis à la colère de Dieu en raison du dessein de salut et de la miséricorde de Dieu. Alors la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. L'impiété et l'injustice. Les hommes, en somme, devraient tous être pieux, c'est-à-dire qu'ils devraient tous connaître Dieu et avoir dans leur cœur la crainte salutaire de Dieu, et de cette crainte, de par cette crainte, avoir un certain rapport d'esprit à esprit avec Dieu. L'homme est capable de cela, est fait pour cela, mais c'est lui qui travaille contre cela. L'homme, avec son orgueil, travaille contre cela et se livre donc à ce qui est appelé ici l'impiété. C'est en somme la persistance de la révolte contre Dieu et c'est tout ce qui maintient et aggrave l'état de séparation. Et l'injustice, c'est tout le contraire de l'observation de la loi de Dieu, évidemment. C'est tout ce qui est à l'opposé de la loi. Les hommes retiennent la vérité captive. Cette vérité captive, nous voyons dans la suite, quelle est celle, cette vérité-là, est celle que l'on peut connaître dans la nature. C'est la révélation, en somme, naturelle. La nature fournit une révélation de la vérité. Pas toute la révélation, mais elle fournit une révélation de base de la vérité. Elle fournit le sens de Dieu, les hommes devraient y trouver le sens de Dieu, le sentiment tout à fait possible et constant de l'existence de Dieu, de son caractère même, de Dieu saint et de Dieu puissant. Tout homme est capable de cela. Qu'est-ce qui fait barrage ? L'orgueil. L'orgueil de l'homme qui fait barrage et qui lutte contre cela. Mais naturellement même, si l'homme laissait, il y en a des hommes qui se laissent instruire par cette révélation naturelle, il y a même des gens de haute culture, on connaît même des grands professeurs d'université, ils sont pas légion, naturellement, mais il y en a qui vous diront et qui ont dit, par exemple, à Christian Chabanis, qui les a interrogés, un journaliste qui les a interrogés là-dessus, qui lui ont dit que de considérer la nature, en effet, ou de la considérer à travers les moyens qu'offre la science, la prospection des recherches scientifiques, eh bien, en effet, ils ont découvert Dieu et ils ont eu la certitude, ils en ont recueilli la certitude de l'existence de Dieu. Il y a donc des savants qui peuvent vous affirmer cela. Je vous dis, ils sont pas nombreux. Mais il y en a. Et je n'ai pas apporté ici le livre de Chabanis, le second livre. Mais de toute manière, ce livre, n'est-ce pas, est intéressant en cela qu'il montre que des personnes de haute culture interrogées ont en effet découvert, indépendamment de la Bible, ils sont venus ensuite consulter la Bible, mais indépendamment de la Bible, ils ont découvert l'existence de Dieu. J'en connais aussi un autre, par exemple, Louis Saget, qui est mathématicien et qui, dans un ouvrage, alors qu'il ne se fait pas absolument le chrétien, n'est-ce pas, c'est pas un témoignage chrétien qu'il apporte, mais dans un ouvrage scientifique, il déclare ceci, que lui a considéré toutes les choses de la vie. Il ne peut pas du tout être comme certains de ses maîtres. Il parle de François Jacob, du professeur François Jacob, au Collège de France notamment, hein, qui est prix Nobel et qui lui est évolutionniste. Il dit, moi je ne peux pas, parce que quand je considère la vie, et je la considère à travers les enseignements même de monsieur François Jacob, qui a été mon professeur, eh bien, je suis obligé de reconnaître, d'admettre qu'il y a une intelligence à l'origine de la vie, que la vie n'est pas venue d'elle-même, qu'il y a une intelligence, d'abord une intelligence. Et quelle intelligence? Une intelligence fantastique, une intelligence extraordinaire. Elle existe, cette intelligence, elle y est, qu'on l'appelle comme on voudra, elle y est. Donc vous voyez qu'il y a bien une révélation. Seulement, le cœur des hommes se ferme. Et on le sent bien à la lecture de certains ouvrages, les hommes, les scientifiques, par pur orgueil. Et voyez, je m'établis même sur le témoignage de cet ami, ce jeune ami Roland Romain, qui est lui un scientifique aussi, dans la recherche, et lui, étant converti, nous dit dans son témoignage, je crois que ce frère l'a entendu aussi, ce témoignage de Roland Romain, eh bien, il dit, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de scientifique qui échappe à l'orgueil. Voilà. Et que quand lui, il a voulu se convertir, ben, il a fallu qu'il surmonte cette énormité de l'orgueil. Alors voilà ce qui fait, n'est-ce pas, l'orgueil. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils diront, mais moi, je ne sais pas, je suis agnostique. Moi, je laisse toutes les possibilités, n'est-ce pas? J'admets toutes les possibilités, mais je ne veux pas retenir particulièrement la possibilité d'un Dieu. Hein? Eh bien, non, 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 ils ne sont pas vrais, ces hommes-là. Ils sont toujours sous le coup du mensonge qui provient du Dieu de ce siècle, de Satan. Ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas vrais. C'est injustement qu'ils retiennent, qu'ils refoulent la vérité, et veulent la faire captive, l'empêcher d'éclater, l'empêcher d'être vu. C'est injustement que cela se fait. Et chers amis, il faut que nous sachions cela. Il est indispensable que nous sachions ces choses, voyez-vous. Il y a beaucoup à apprendre de tout cela. Et nous continuerons, Dieu voulant, demain.